La parole aux auditeurs de la Creuse et d'Aubusson qui sont venus nombreux. Mais avant cela, quelqu'un qui a fait le déplacement jusqu'à Aubusson. Bonjour Sophie Arabe.
Mais oui, je suis là et je serai là à 8h55. Bonjour. Bonjour à tous.
Vous êtes attendue, Sophia. C'est eh bien, que je dire.
Comme vous avez été très très sage, cher public et chers auditeurs qui nous écoutaient de chez vous, eh bien, je vais vous raconter la folle histoire du seigneur de Bossé.
Du seigneur de Bossé. Ah oui, de Bossé, le manoir de Bossé. Oui, oui, je vois très bien. Alors, dans la salle, ici, à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Madame, bonjour madame.
Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, nous sommes les enseignants du lycée des métiers du bâtiment de Feltin, près d'Aubusson. Et nous travaillons dans un lycée bâti il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'école et l'éducation deviennent en premier des problèmes d'argent. Il faut toujours économiser. Alors qu'elle devrait être un investissement humain de première nécessité et travailler sur la durée. Donc les structures éducatives en zone rurale en particulier sont devenues beaucoup trop précaires. Pour revenir à notre lycée, donc depuis plusieurs années, nous sentons plus du tout égaux face aux autres structures en France. Donc les résultats de nos élèves, autant en baccalauréat professionnel qu'en BTS, sont bons. Et pourtant, malgré ces pourcentages qui approchent souvent ou atteignent les 100% de réussite, nous avons encore des difficultés à nous développer. Par exemple, donc malgré la réputation dans la France entière du LMB, nous avons des projets de développement comme la classe préparatoire. Donc le dossier.
Je vous interromps parce que on va pas.
J'en ai vraiment pour 10 secondes. Donc le dossier a été reconnu comme pertinent par la ministre elle-même, ouais. Madame Najat Vallaud-Belkacem. Elle le souligne dans une lettre qui date du 21 février 2017. Et pourtant, ces projets ne peuvent être menés à bien en raison des difficultés économiques et de l'isolement de notre territoire. Donc on se demande pourquoi les lieux les plus pauvres en hommes et en moyens n'auraient-ils pas la chance de se développer comme les autres ?
Bon, pour réclamer davantage de moyens pour
surtout d'écoute et peut-être une auto-organisation, puisque nous aussi nous avons un sentiment d'usure, comme Michel Moine le disait tout à l'heure. Je rejoins également ma collègue, donc parent d'élève, qui a témoigné tout à l'heure, et nous avons l'impression que nos élèves sont pleins de ressources et nous sommes en train de gâcher une grande richesse.
Merci d'être intervenu. Nicolas Simonet, vous êtes aussi vice-président du conseil départemental, membre de l'association des maires creusois. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'il y a un manque d'écoute aussi, qu'il est difficile de se faire entendre depuis le fin fond de la Creuse face à des administrations centrales qui ne donnent pas toujours les moyens et l'attention nécessaires ?
Tout d'abord, je mets en garde sur un discours qui pourrait être jugé trop alarmiste et qui ne serait pas représentatif non plus, eh bien, de la Creuse. Il faut faire très attention à cela. Il y a quand même dans ce département une économie locale dynamique et il y a également un cadre de vie exceptionnel. Donc, il ne faut pas résumer la Creuse à une désertification des services publics. Mais il y a un principe de réalité face à nous. Le principe de réalité, c'est que nous rencontrons depuis des décennies des fermetures de services publics qui, aujourd'hui, posent des problèmes, c'est sûr, pour ceux qui vivent dans le territoire. Avant de faire venir et d'être, il faut être attractif et faire venir de nouveaux habitants, mais déjà pour vivre correctement dans ce département. Oui, c'est vrai, vu de Paris, c'est vrai que la Creuse, des fois, on se sent un peu oublié.
Une autre intervention dans le public. Madame, bonjour. Alors, on va vous ouvrir le micro, voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire marcher ce micro ou est-ce qu'on ne peut pas le faire marcher ? Et non, bah non, on ne peut pas le faire marcher, voilà. Donc, alors, excusez-moi, on va réparer le truc, mais l'autre micro, celui qui marche, est dans un autre endroit de la salle et puis on vous redonne la parole après. Monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais savoir si on ne pourrait pas un petit peu dépasser le débat. On est dans le constat, là, et c'est très bien, mais en même temps, il y a des politiques qui sont menées. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit bilan de ces politiques ? Et puis, il y a l'Union européenne derrière, il y a des traités. Quelle est l'influence des traités européens sur les politiques qui sont menées ? Que pense la tribune de ces politiques-là ? Et puis, j'aurais une petite question un peu personnelle pour Monsieur Cohen.
Oui.
Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple, qui est président fondateur de l'Union populaire républicaine depuis 10 ans. Bon, ce serait dommage, c'est un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats qui ont des choses à dire.
Moi, il me manque.
Vous avez invité Monsieur Larouturou, il avait à peine créé son parti. Le lendemain, il faisait la matinale.
Écoutez,
de France Inter.
Vous, il vous manque,
il y en a
un peu moins, mais
c'est dommage.
Écoutez, s'il a une représentativité quelconque,
il en a une.
Ah bon?
Oui, bah, oui, 16 300 ah, oui, adhérents à ce jour.
Ah, très bien.
Le site politique Bravo. Le plus consulté de tous les partis politiques français.
Ok.
J'estime que de temps en temps, ce serait sympa de lui donner
Ça
la parole.
Ça marche. Eh ben, écoutez, vous avez fait...
0 minutes, 0 secondes pour le moment, monsieur.
Non, 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 une minute grâce à vous. Ah, à l'instant. D'accord. Allez, madame ici, s'il vous plaît. Bonjour, madame.
Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Perrine Vinoc, je suis éducatrice spécialisée dans un IME en Creuse, l'IME Pierre d'Aubusson en Mauteuil-Vicomte. Cet IME, c'est un établissement qui accueille des enfants déficients intellectuels légers. Il compte aujourd'hui 45 enfants en internat et cet IME va fermer ses portes d'ici 2021 sur une décision de l'Agence régionale de santé. Donc c'est une catastrophe pour notre coin, enfin notre bassin sud-creusois, parce que il compte 35 salariés qui vont perdre leur emploi et on ne sait pas s'ils vont être reclassés. Voilà.
Merci pour cette intervention. Qui veut répondre là sur la situation de cette IME, Michel Moine, maire d'Aubusson.
Pas forcément sur la situation de l'IME, mais pour dire à quel point moi je suis déçu que par exemple une des promesses de François Hollande qui était le bouclier rural n'est finalement pas connu de réalité concrète. Il est repris aujourd'hui apparemment dans le programme de Benoît Hamon, mais de manière encore assez floue. Mais en tout cas, tout ce que avait été envisagé à l'époque, ça avait commencé en 2010.
Ce que propose Benoît Hamon, c'est un ensemble de garanties pour que il y ait des services publics dans les zones rurales. C'est le bouclier rural, c'était une promesse de François Hollande.
Oui, c'était dans son programme. C'est d'ailleurs, il y avait eu une proposition de loi en 2010 qui avait notamment porté Michel Vernier, le député de la Creuse, et quelques autres. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas allé au bout des choses. Il y avait une discrimination positive en matière de développement économique qui était prévue, qui n'a pas été mise en place. Le maintien des services publics, par exemple, sur lequel on a pu que constater qu'il continuait à nous quitter petit à petit. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est effectivement une déception.
Nicolas Simonet, comment on maintient de l'activité et donc de l'activité de la population dans ces territoires? C'est la question.
C'est l'ensemble des élus qui font ce travail au quotidien. Et c'est vrai que quand on a aujourd'hui un État qui se soucie de moins en moins de la ruralité, parce que démographiquement on pèse pas grand-chose dans le pays, il faut que les élus, les collectivités portent des projets. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons le conseil départemental, nous avons les intercommunalités, les communes qui portent des projets structurants pour le territoire, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir vivre décemment dans ce territoire. Vous parliez de la santé tout à l'heure. Il y a les maisons de services pluridisciplinaires, les maisons de santé.
Ça marche ?
Les maisons de santé, on n'a pas assez de recul, si vous voulez. On n'a pas assez de recul. Mais il y a un effort.
Ça marche ou ça marche pas?
Il y a un effort qui est fait par les collectivités, très sérieusement. Cela coûte cher aux collectivités. Ouais. Ça permet de regrouper l'ensemble des médecins, infirmiers, kinés, etc. Est-ce que ça marche? On a des difficultés, c'est vrai. Et aujourd'hui, on ne voudrait surtout pas que ces maisons de santé soient des coquilles vides. Et c'est là où l'État doit intervenir pour nous permettre de faire venir de jeunes professionnels. La limite, elle est là. La limite, aujourd'hui, pour les collectivités, c'est qu'en aucun cas, on peut imposer à des médecins libéraux de venir s'installer à la campagne. Il faut trouver des moyens. Pourquoi pas les mesures coercitives? Pourquoi pas incitatives? On a essayé. Il y a eu des bourses qui ont été mises en place pour financer les études des jeunes praticiens qui terminaient leur scolarité, pour venir s'installer en milieu rural. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on en appelle à l'État pour pouvoir faire en sorte que ces maisons de santé ne soient pas des coquilles vides.
André Fistre, ancien médecin généraliste à la Souterraine, en retraite depuis 2 mois. Les maisons de santé, ça, c'est une solution? Ça marche ou pas?
Ça peut être une solution, mais ce n'est pas l'unique solution. Alors moi, on me demande de parler de l'avenir. Moi, je suis plutôt branché passé. Mais c'est vrai que les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être une ouverture, dans la mesure où ce qui est important, c'est que si on a un candidat pour s'installer, s'il y a une maison de santé, il peut venir. Mais s'il n'y a pas de maison de santé, il ne viendra pas. Je crois que le médecin de famille a vécu et que maintenant, on va rentrer dans une médecine où il y aura plusieurs intervenants. Les remplaçants, on a quelques difficultés pour en trouver maintenant. Donc, je pense que ça peut être une solution, mais c'est pas l'essentiel. En plus, le salariat, je pense, est quelque chose que les jeunes médecins ont tendance à faire passer en priorité. Je crois qu'il y a à peu près en France, à l'heure actuelle en médecine générale, 46% de salariés, 44% de médecins libéraux et les 10% restants étant dans le mixte. C'est c'est à peu près ce que j'ai pu avoir.
C'est-à-dire que la jeune génération recherche davantage de sécurité que
elle cherche la sécurité très certainement et le confort, la qualité de vie. Ne pas oublier quand même que la médecine générale est une profession qui s'est féminisée. Le montant, on avait 20% de femmes qui exerçaient la médecine libérale. À l'heure actuelle, on assiste à 60-70% de femmes. Hein. Avec donc des qualités de vie qu'elles sont en train de rechercher. C'est une autre problématique. Ce qui gêne le numerus clausus également. Ça n'avait pas été prévu à l'époque.
Bien sûr. Question ou intervention dans la salle, monsieur. Bonjour.
Oui, bonjour, Jean-Luc Léger. Je suis élu. Tout d'abord, un témoignage. Je viens de lire le dernier magazine d'Alternatives économiques qui vient de dire que finalement, en dépit du discours ambiant sur les difficultés des zones rurales, elles ont aussi leurs atouts. Hein, notamment en termes d'encadrement des enfants. On a le meilleur taux d'encadrement dans la Creuse. Après, on peut le juger insuffisant, mais on a quand même le meilleur taux d'encadrement des enfants dans le primaire dans ce département. On accueille de nouvelles populations. On a des communes très rurales qui renaissent en quelque sorte, qui attirent de nouvelles populations. Par contre, effectivement, il y a un problème d'accès aux soins. Et là, j'en viens à ma question. Je voulais reposer la question au docteur parti à la retraite. Maintenant, il a bien le droit. Tout à l'heure, vous avez évoqué les mesures coercitive auxquelles vous ne croyez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, s'il vous plaît ?
André Fistre.
Oui, je pense qu'effectivement, on a déjà une pénurie de médecins. Donc, imposer à des médecins de rentrer dans un système, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Je n'y pense pas du tout. Des mesures incitatives, très certainement, imposer me paraît difficile. On risque en plus d'entraîner une fuite, j'allais dire, des médecins généralistes vers des pays riverains. Et personnellement, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est ma conviction, hein, on peut toujours débattre dessus.
Bon, en tout cas, vous êtes plusieurs ici ce matin à avoir insisté sur la qualité de vie de ce département. Je vois Marie Padovani qui approuve. S'il n'y avait pas cette qualité de vie, il n'y aurait pas autant de résidences secondaires. Je crois que c'est 20% des logements disponibles du département maintenant qui sont en résidence secondaire. Quelqu'un peut confirmer ce chiffre que j'ai lu quelque part? Oui,
Ça m'étonnerait pas, mais
Marie Padovani.
Du coup, il y a deux dimensions. Effectivement, on est ravis d'accueillir les résidents secondaires et de leur faire découvrir la Creuse. Mais par exemple, à Magny-à-l'Étrange, je pense que 70% des maisons du bourg sont fermées 10 mois de l'année sur 12. Et du coup, c'est très compliqué de faire vivre un village qui est mort 10 mois sur 12. Voilà. Donc, évidemment, monsieur Léger, excusez-moi, évidemment que nous avons un taux d'encadrement pour les élèves supérieur à la moyenne nationale, comme je le disais tout à l'heure, puisque nous sommes dans un département rural, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de ce département, notamment la dernière décision de l'Académie étant de ne pas pourvoir aux besoins, notamment des remplaçants dans l'éducation nationale, et nous sommes en manque de postes. Madame Ladazen a clairement dit que ces postes-là pouvaient être comblés à condition de fermer les petites écoles, c'est 70% des écoles de la Creuse. Nous sommes en danger. Je ne peux pas vous laisser dire ça sans réagir. Excusez-moi.
Merci.